Cher William, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le 21 août 1238, il y a presque 8 siècles, deux armées s'affrontèrent dans le nord de l'Islande. Plus de 2500 hommes participèrent à cette bataille, un nombre impressionnant pour ce petit pays. Les troupes des seigneurs Kolbein et Gesur emportèrent une victoire rapide. Les chefs de l'armée adverse, Sturla Sighvatsson et son père Sighvatur, moururent au combat. Après la bataille, on procéda à des exécutions. Trois des frères du vaincu Sturla furent tués et quelques-uns de leurs plus fidèles compagnons. L'un d'entre eux s'appelait Thorir Jökull. Avant d'être décapité, il récita le poème suivant. Uppskalaukjöl klífa, köldir sjávar drífa, kostadu hugað herða, hér skaltu lífið verða, skall beigjattu skalli þótt skúr á þig falli, ást hafðir þú meia, eitt sinn skal hver deyja. Monte sur la coque du bateau. Les embruns gelés soufflent sur toi. Prends courage, car c'est l'instant de ta mort. N'incline pas la tête, même si la bourrasque s'abat sur toi. Les jeunes femmes t'ont aimé. Chacun doit mourir un jour. Ceci n'est pas un poème skaldique, car les rimes sont à la fin des vers et non internes. Les schémas allitératifs sont cependant les mêmes que dans la skaldique. Nous savons peu de choses sur Thorir, cet homme si courageux devant la mort. Il faisait partie de l'entourage de la famille des Sturlungar et, lors d'une précédente bataille, il avait tué un homme et c'est le frère de celui-ci qui fut désigné pour le mettre à mort. Nous ne savons pas non plus si le poème est de lui, s'il le composa sur le champ ou s'il était d'un autre. L'auteur de la saga qui raconte ces faits, de cette saga de contemporain, Sturla Þórðarson, participa lui-même à la bataille du côté des vaincus, mais sa vie fut épargnée par Gesur, le chef du camp adverse. Nous ne pouvons pas exclure que le poème soit de Sturla et qu'il composa cet épisode pour créer un effet. Le poème, malgré cela, le poème est intéressant. D'une part par les métaphores utilisées, tirées de la vie du marin et non du soldat, le poète s'imagine agrippé sur un navire renversé dans une tempête et qu'il doit garder la tête haute, malgré la proximité de la mort. Il se parle à la deuxième personne et se console de son trépas imminent en se disant que tous doivent passer par là et qu'au moins il aura été aimé par les jeunes filles. Le rythme du poème, chaque ligne portant trois syllabes accentuées, fait en sorte qu'il fonctionne un peu comme un mantra, calmant l'angoisse du locuteur face au néant qui l'attend. Dans mes précédentes conférences, j'ai utilisé les trois concepts de réalité, idéologie et identité pour comprendre le rôle et la signification de la littérature dans cette société si particulière de l'Islande du XIIIe siècle. Pour faire simple, l'identité est construite dans une situation réelle par rapport à une idéologie, soit un système de représentation et de valeurs. Dans ce poème, le personnage qui parle, confronté à la réalité terrible de sa mort imminente et de la hache qui va lui trancher le cou, s'interpelle lui-même. L'idéologie par rapport à laquelle il doit se définir est celle du combattant courageux qui ne craint pas la mort, soit une représentation dominante de la masculinité dans la littérature islandaise médiévale et ailleurs aussi, bien entendu. Cette idéologie s'exprime entre autres dans la poésie éddique, les sagas légendaires et bon nombre de sagas des premiers Islandais. Il y a d'ailleurs des liens inexpliqués entre cette strophe et la saga des Völsung, dont j'ai déjà souvent parlé et qui est une version en prose des poèmes héroïques de l'Edda. Et voilà une représentation d'une scène de la saga des Völsung et le texte du poème que je viens de lire en islandais. Et avec le dernier vers, donc « Eitsin skal kver deya », car à deux reprises, des expressions différentes de la poésie éddique sont traduites, si on peut dire, dans la saga des Völsung en citant ce dernier vers. Et cela confirme ce que j'ai dit dans mon premier cours, que les sagas légendaires et d'autres récits qui se déroulent dans un passé lointain sont des vecteurs d'idéologie. Dans les sagas de contemporains, en revanche, écrites peu après les événements représentés, la mort est plus effrayante, plus inconfortable, plus douloureuse, plus réelle. Un jeune homme du nom de Guðmundur va être exécuté par ordre de son oncle par alliance, celui chez qui il a grandi. Les relations s'étaient envenimées entre ses proches parents. Il a d'abord été contraint de regarder l'exécution de son frère aîné. Quand son tour vient, il dit simplement « Il serait bon de vivre encore un peu, mon oncle. Faisons la paix. » Celui-ci, rouge d'émotion, répond « Je n'ose pas, mon neveu. » Guðmundur est décapité après avoir récité les sept psaumes pénitentiels. Ailleurs, un autre jeune homme est tué dans une bataille. Son père est inconsolable. On le montre essayant de parler à sa bru, à la veuve de ce fils. Il est incapable d'articuler, rendu muet, sinon aphasique, par son deuil. Il mourra bientôt. Selon l'opinion générale, il fut emporté par son chagrin. Les épisodes que je viens d'évoquer se passent entre 1230 et 1262, la période la plus violente de l'histoire de l'Islande. Ni avant ni après, il n'y a eu dans le pays des batailles où plusieurs centaines d'hommes se livraient combat. Blessures, mutilations, mises à mort étaient le lot de nombreuses personnes, sans oublier les terribles attaques contre des manoirs où vivaient les seigneurs avec leurs familles et entourages, attaques où il arrivait qu'on mit le feu aux maisons, brûlant à l'intérieur femmes et enfants, et pas seulement les combattants. On a beaucoup étudié la violence dans la société islandaise du Xe au XIIIe siècle, surtout depuis les années 80, où on assista à ce qu'on a appelé un tournant anthropologique dans l'étude des sagas et de la société d'où elles sont issues. Les noms de Jesse Byock et William Ian Miller doivent être évoqués dans ce contexte. Auparavant, on avait remarqué qu'elles révélaient une préoccupation très forte avec les mécanismes de la vengeance. Dans un livre majeur paru en 1967, « The Icelandic Family Saga, an Analytic Reading », Theodore M. Anderson a vu le devoir, ou la pulsion, de vengeance comme structurant les sagas des premiers Islandais. Pour ces auteurs, le devoir de vengeance est un mécanisme de régulation sociale dans une société sans pouvoir central. Être obligé, au prix de son honneur, de sa sécurité future et des siens, d'obtenir réparation pour une offense ou sinon de la venger a plusieurs effets. D'une part, cela décourage les agressions. Si vous avez prouvé que vous êtes prêt à rendre l'appareil, il est probable qu'on vous laisse en paix. Cela structure aussi la société, car tout le monde n'est pas capable de se défendre. Dans ce cas, il faut cultiver les liens de parenté, créer des alliances par le mariage ou l'amitié, tout cela devant être renforcé par des échanges de cadeaux, d'invitations à festoyer ou par le soutien en cas de difficulté. Les réseaux ainsi créés sont pour beaucoup dans le maintien d'une hiérarchie sociale, en quelque sorte organique. Les familles les plus riches, possédant les meilleures terres, avaient les moyens de réunir autour d'elles des hommes forts et pouvaient ainsi donner protection à d'autres moins fortunés qu'elles. En retour, elles demandaient leur soutien dans d'autres circonstances, par exemple dans les conflits qu'elles pouvaient avoir avec des familles importantes du voisinage. Ces familles importantes pouvaient être chefs ou guadar, comme on appelait les seigneurs islandais, jusqu'à ce qu'il se soumette au roi de Norvège en 1262. Voici la couverture d'un livre récent en anglais qui traite ce sujet, ainsi que la représentation par un dessinateur contemporain d'une cérémonie décrite dans une saga où deux hommes se jurent fidélité, devenant ainsi frères jurés avec l'obligation de se venger mutuellement. Les conflits pouvaient se présenter sous la forme de litiges. Dans ce cas, ils se déroulaient à l'assemblée, ou au think, dans le cadre de la loi. Ils pouvaient également prendre la forme d'une lutte armée. Souvent, les deux se mélangeaient. Une altercation causant une blessure ou mort d'homme se résolvait ensuite à l'assemblée avec paiement d'une compensation prescrite par la loi. Il arrivait aussi que le conflit ressurgisse malgré la décision prise au Parlement. Les sagas montrent souvent comment ce système de protection mutuelle remontait l'échelle sociale et pouvait faire qu'un conflit entre personnes plus bas dans la hiérarchie sociale conduise deux seigneurs à s'affronter. Bien entendu, cela n'arrivait que si les deux seigneurs en question avaient d'autres raisons pour vouloir mesurer leurs forces. Parfois, on peut les voir sauter sur l'occasion d'une dispute entre subalternes pour intensifier un conflit avec le seigneur voisin afin de l'humilier et prendre le dessus. Pour revenir au XIIIe siècle, la période dans laquelle les sagas sont écrites, il y a une certaine concordance entre les sagas de contemporains et les sagas des premiers Islandais dans la représentation des mécanismes sociaux. Elles sont davantage en creux dans celles qui se déroulent au XIIe et XIIIe siècle, où d'autres constructions sociales entrent également en jeu, comme l'intervention d'hommes d'église ou l'identité aristocratique en voie de construction chez l'élite laïque islandaise. On voit néanmoins ces mécanismes à l'œuvre dans deux des exemples que je viens de citer. C'est le frère de l'homme que Thorir avait tué lors d'une précédente bataille qui lui donne le coup mortel. L'oncle du jeune Guðmundur n'ose pas le laisser vivre de peur de la vengeance que le jeune homme sera obligé de perpétrer s'il survit, son frère aîné ayant été tué. Pour voir comment ces mécanismes contiennent la violence en même temps qu'ils l'entretiennent, je vais faire appel à deux sagas des premiers Islandais, la Herbigasaga et la saga de Njal le Brûlé. Cela me permettra de montrer par la suite comment les auteurs des sagas ont trouvé, consciemment ou inconsciemment, des formes pour exprimer cette violence qu'ils voyaient autour d'eux et à laquelle ils participaient parfois. Je dis parfois pour rire que les auteurs des sagas islandais avaient certainement participé à ces batailles et à ces tueries. Et ce serait si, comme dans l'Académie Goncourt, au moins la moitié des membres avaient un ou plusieurs morts sur la conscience. Alors, Herbigasaga est une des plus remarquables des sagas des premiers Islandais. D'après les philologues, elle fut composée entre 1230 et 1270, pendant cette période de violence que je viens d'évoquer. La saga décrit la vie des quatre premières générations de chefs qui vécurent sur le versant nord de la péninsule de Snæfellsnes dans l'ouest de l'Islande, et vous voyez, elle est indiquée sur la carte. Après avoir décrit le peuplement de la région, la saga se concentre sur la quatrième génération d'Islandais, celle qui va se convertir au christianisme en l'an 1000. À ce moment de l'histoire de la région, il y avait plusieurs chefs dont chacun était en mesure d'exercer la domination sur les alentours. Ils sont cependant en compétition les uns avec les autres, car chacun est bien né, mais a des qualités différentes. Certains sont des guerriers redoutables, d'autres s'attirent facilement des amis et du soutien. L'un d'entre eux, cependant, n'est pas lui-même un combattant valeureux, mais il parvient à ses fins par la ruse et les stratagèmes souterrains. Il s'appelle Snorri. On l'appelle Snorri le chef, ou le Guadé, et il est un lointain ancêtre de la famille des Sturlungar, et donc de Snorri Sturluson, né deux siècles après cet aïeul. Ce Snorri, donc celui qui vécut à cheval entre le Xe et le XIe siècle, a réellement existé, puisqu'il est mentionné dans de nombreuses sources. Cela ne veut pas dire que la saga dont nous parlons décrit des événements ayant vraiment eu lieu. Nous sommes plutôt dans le domaine de la fiction, même si certains faits peuvent être basés sur des souvenirs authentiques transmis de génération en génération. Lorsque la saga est parvenue à la quatrième génération, depuis celle de la prise des terres au IXe siècle, le rythme du récit se ralentit en même temps qu'il devient plus détaillé. Snorri Goði est le premier de cette génération à être présenté, et ce sera avec lui que la saga se refermera. De ce point de vue, il est le personnage principal de cette saga. C'est pourquoi son traducteur français, Régis Boyer, a choisi le titre de « Saga de Snorri le Goði » dans son édition de la Pléiade. Je préfère celui que l'on trouve dans les manuscrits médiévaux, à savoir la saga des habitants de Eir, de Thorsnes et de Álftafjörður, trois régions voisines du nord du Snæfellsnes, et ce titre rend mieux compte du fait que rien n'est joué dans la compétition entre les chefs de la région. En effet, le résultat n'est pas certain, car si Snorri l'emporte plus souvent que non, il n'en devient cependant pas pour autant un seigneur dominant tout son territoire. Comme son lointain descendant au XIIIe siècle, Þórður Sturluson, le frère de Snorri Sturluson, l'écrivain, Snorri le Goði donc n'atteint pas cette domination-là. Et par ailleurs, dans cette saga, il n'est pas toujours au centre d'un récit qui multiplie les intrigues en les entrelaçant. Si bien que le lecteur s'y perd parfois. C'est un nouvel aspect de ce dont je parlais la semaine dernière, à savoir que les auteurs de ces textes demandent à leurs lecteurs ou auditeurs d'aiguiser leurs facultés intellectuelles. Comment la violence est-elle mise en scène dans ce récit ? Deux fermiers sont en conflit, l'un avec l'autre. Le premier est le neveu d'Arnkell, un autre Goði, et adversaire principal de Snorri. Le second a épousé la sœur de Snorri. Alors, tous les deux sont donc obligés d'intervenir dans ce conflit, mais ils choisissent de le porter devant l'Assemblée, où c'est traité par la loi. Et là, c'est Arnkell qui a gain de cause. Snorri est contraint d'accepter sa défaite, mais lorsque le conflit entre les deux fermiers reprend et s'envenime, le beau-frère de Snorri est tué. Alors Snorri est sur le point d'obtenir la condamnation du neveu d'Arnkell lorsque celui-ci, aidé d'un troisième chef, parvient à procurer un navire sur lequel le neveu s'embarquera pour la Norvège sain et sauf. Snorri n'obtiendra pas la compensation qu'il voulait pour la mort de son beau-frère. Il est également dans l'impossibilité de le venger. Ce ne sera que partie remise entre lui et Arnkell. Beaucoup plus tard dans la saga, une querelle opposera les deux chefs à propos d'un bois que tous deux prétendent posséder. Lorsqu'un des hommes de Snorri attaque Arnkell parce qu'il était venu pour les empêcher de l'exploiter, celui-ci le tue. Lorsque Snorri porte l'affaire devant l'Assemblée ou le Thing, Arnkell peut faire valoir que l'homme de Snorri l'a attaqué en premier et il n'est donc pas condamné à verser une compensation. Quelque temps plus tard, les hommes de Snorri lui reprochent de n'avoir ni obtenu compensation ni vengeance pour leurs camarades. Snorri indique, en donnant une hache à l'un d'entre eux, que l'heure de la rétribution est arrivée. Bientôt, ils surprendront Arnkell, qui était seul, et le tueront. Comme Arnkell n'a pas d'héritier mâle et pas non plus de parentèle étendue dans la région, il n'y a pas de conséquences pour Snorri, qui a ainsi écarté l'un de ses concurrents. Dans la société représentée dans cette saga, qui, rappelons-le, n'est pas celle de son auteur, qui vivait plus de deux siècles plus tard, mais qui y ressemblait, la violence est réelle, mais elle est aussi contenue en partie par le recours à la loi et à la pratique de la compensation pécuniaire. C'est aussi le cas pour la société du XIIIe siècle, mais la donne a été changée, notamment par l'intervention du roi de Norvège dans les affaires islandaises. À partir de 1220, les dirigeants norvégiens manifestent leur désir de soumettre les chefs islandais à l'autorité royale. Certains sont heureux de s'y plier, car ils obtiendront ainsi honneur et récompense à la cour. D'autres sont réticents, voire hostiles, car le roi peut conférer l'autorité sur des régions autrefois contrôlées par eux à des hommes choisis par lui. D'autres encore se livrent une compétition féroce pour devenir le représentant principal du pouvoir royal en Islande, d'être Jarl, l'équivalent du Earl anglais mais de fait, ce Jarl deviendrait une sorte de vice-roi très puissant en Islande, avec sa propre cour et les honneurs qui vont avec. C'est le cas des deux chefs qui se livrèrent en bataille en 1238 et dont j'ai parlé au début, Sturla et Gissur, et il est probable que c'était là l'enjeu principal de ce combat. L'intervention royale ne veut pas dire que le devoir de vengeance n'est plus une exigence, loin de là. Nous en avons vu l'importance dans les exemples donnés au début de cette conférence, qui tous sont de cette période. Cependant, la violence a dépassé les bornes, avec les batailles rangées et l'absence de mesure des uns et des autres. En octobre 1253, un mariage est fêté dans le manoir de Flögumýri, dans le nord de l'Islande. Gissur, celui-là même qui, 15 ans auparavant, en 1238, avait été victorieux dans la bataille contre Sturla Sighvatsson, avec les morts et les exécutions qu'on sait, est en train de marier l'un de ses fils à la fille d'un autre membre de la famille des Sturlung, un autre Sturla, celui-là Thordarson, c'est ce dernier qui nous raconte les événements. La vengeance est un plat qui se mange froid. 15 ans après les faits, la nuit après les noces, alors que la plupart des convives sont partis et personne ne s'y attend, le manoir est entouré par un groupe armé conduit par le gendre de Sturla Sighvatsson. Gissur est là avec toute sa famille. Le moment est venu de l'éliminer, ainsi que ceux qui auraient plus que d'autres le devoir de le venger, à savoir ses fils. Gissur et ses compagnons résistent plus longtemps que prévu, et bientôt les hommes de la région viendront à sa rescousse. Les assaillants n'ont guère d'autre choix que de mettre le feu au manoir. Fuir leur ferait prendre le risque de représailles sanglantes. Rester signifierait qu'ils auraient à se défendre contre de trop nombreux ennemis. Il faut donc en finir vite. Et le meilleur moyen est de faire périr Gissur et son fils par le feu. Bientôt, les flammes engouffrent le manoir. Ceux qui parviennent à sortir sont tués. D'autres meurent suffoqués ou brûlés. Les trois fils de Gissur sont morts, sa femme aussi. Gissur s'échappera par miracle, mais il a tout perdu. Sauf le désir de se venger. Ce n'est pas seulement un désir, mais un impératif politique. S'il ne le fait pas, il perdra la confiance de ses hommes, qui ont aussi perdu des proches dans l'attaque qu'ils veulent venger. L'évêque du nord de l'Islande a cependant déclaré la trêve. Malgré cela, Gissur parvient à tuer un nombre suffisant de ses assaillants pour s'estimer vengé. Il encourt la mise au ban du clergé, mais semble avoir pu négocier son absolution par l'Église, car quelques années plus tard, le roi lui confère le titre si convoité de Jarl, ce qui en fait l'homme le plus puissant de l'Islande. Sans progéniture, cependant, son lignage s'éteint avec lui. Une scène célèbre le montre, le lendemain de l'incendie, devant les ruines du manoir, alors que les restes calcinés d'un de ses fils et de sa femme sont portés dehors. Ce ne sont plus que des fragments de corps. Son fils a littéralement cuit dans son armure. De sa femme, il ne reste plus que la poitrine. Il se tourne vers le cousin qui se tient à ses côtés et dit « Regarde, cousin Pâtl, tu vois là mon fils Isleif et ma femme Gro. » Puis il détourne la tête. On voit des larmes lui jaillir des yeux. L'auteur de la saga, Sturla Thordarson, dont la fille Ingibjörg a été sauvée de justesse de l'incendie, dit de Gissur que malgré cette perte effroyable, il se comportait avec dignité et qu'il arrivait à dormir. Il dit de lui qu'il était « mikill borði », ce qui est une métaphore tirée du langage des marins. On dit d'un navire que ses plats-bords sont élevés si les marins sont bien protégés des grandes vagues. Cela signifie que Gissur avait de bons mécanismes de défense psychologique. Pour utiliser un terme qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, il était résilient. Cet épisode montre que les auteurs islandais des sagas du XIIIe siècle avaient une compréhension tirée de leur propre expérience des effets psychologiques du traumatisme. On le voit aussi dans la description du père d'un fils tué au combat qui a perdu la faculté de la parole et se laissa mourir de chagrin, ou encore dans le récit de la saga des îles que j'ai étudié la dernière fois, quand le personnage principal décide de s'affamer pour ne plus vivre après que son fils chéri se soit noyé sur le fjord. Les auteurs comprenaient que les effets de la violence n'étaient pas seulement physiques, mais aussi psychiques. Cette conscience trouve aussi son expression dans les créations littéraires de la période, et je vais consacrer ce qui me reste de cette heure à l'étude de deux exemples de l'expression littéraire de l'effet traumatique de la violence, bien connu des Islandais du XIIIe siècle, dans les sagas telles qu'elle apparaît dans les sagas des premiers Islandais, c'est-à-dire celles dont l'action se déroule autour de l'an 1000. Le premier exemple est tiré de la saga dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui a pour titre la saga de Snorri le Goði dans l'édition de la Pléiade. Un dénommé Thorarin, fermier de son état, est grand et fort, mais tellement paisible et conciliant qu'on dit de lui qu'il a davantage le caractère d'une femme que celui d'un homme. Son voisin, plus agressif que lui, veut lui intenter un procès car il le soupçonne à tort d'avoir volé ses chevaux. Il vient faire une perquisition chez lui, illégale, car il n'a pas respecté la procédure. C'est un affront, mais la réaction naturelle de Thorarin est de laisser faire, tout en protestant. Mais sa mère a un tempérament plus guerrier et tense son fils, lui rappelant qu'on dit de lui qu'il n'est pas un homme. Cela l'effet escompté. Il prend ses armes, attaque son voisin et tue l'un de ses hommes. Pour mettre fin à l'échauffourée, l'épouse de Thorarin et quelques autres femmes s'interposent entre les combattants. La perquisition a été interrompue, les ennemis s'en vont, mais que découvre-t-on ? Une main féminine gît sur le sol. C'est celle de la femme de Thorarin tranchée pendant la bataille. Il se lance à la poursuite de ses assaillants. Quand il les a rattrapés, il les entend s'exclaffer de rire quand l'un d'entre eux dit que c'est Thorarin lui-même qui a coupé la main de sa femme dans la mêlée. Fou de colère, Thorarin dégaine son épée et fend le crâne de son voisin avant de retourner chez lui. Il est accueilli par sa mère qui demande des nouvelles. Maintenant, une chose curieuse arrive. Alors que Thorarin n'avait jamais été présenté comme poète, désormais, il ne parlera plus que dans la forme de strophes skaldiques, 17 en tout, dans lesquelles il racontera les événements dont il vient d'être question et quelques autres. Ce personnage mémorable de la saga de Snorri le Goði n'est pratiquement jamais mentionné dans d'autres textes et jamais comme poète. Ces strophes sont les seules strophes que nous avons de lui. Après les événements dont il vient d'être question, il y aura des procès. Et pour finir, il sera obligé de quitter l'Islande pour toujours, laissant tout derrière lui, possessions, amis et famille, y compris sa femme. Il est donc surtout remarquable pour la situation dans laquelle il se trouve, homme paisible, à la masculinité contestée, qui se révèle capable des actions les plus violentes, après lesquelles il ne s'exprime plus qu'en poésie. Laissons de côté la question de l'authenticité supposée de ces strophes. Je l'ai traitée mardi dernier. Nous ne pouvons pas savoir si elles sont du personnage historique ayant vécu au Xe siècle, de l'auteur de la saga ou de quelqu'un d'autre vivant dans une période intermédiaire. Ce qui est important, c'est d'une part la situation d'énonciation, les strophes étant déclamées en réponse aux questions qui sont posées au personnage où il revient sur les événements violents qu'il vient de vivre. D'autre part, ces strophes sont d'une grande qualité, en même temps qu'elles sont originales. Loin d'être une confirmation de l'historité de ces faits, elles sont l'expression d'une subjectivité confrontée à une situation traumatisante. Voici ce qui est pour moi la plus remarquable de ces strophes, la seconde. Le poète y décrit l'instant où il donne le coup fatal à son voisin et ennemi. Knátti hjörund hætti, fræflóð bragar móða, rann of sóknar sæki, slíður beittur staðar leita, blóð felles vas váði, vígtjálsnægir skaldi, þá var stæmisalur dóma, dreira fullur of eiru. Lippi Assyri a atteint sa cible sous le casque du guerrier, la kenning c'est dieu du maître, le sang, l'eau, de la charogne, a coulé sur l'attaquant, le sang coula par-dessus les oreilles, alors que l'épée, la menace de la toile du meurtre, la toile du meurtre est le bouclier, la menace du bouclier est l'épée, alors que l'épée est passée tout près du poète. Alors la bouche, salle où les jugements sont donnés, s'est remplie de sang. Cette strophe respecte toutes les règles de la poésie skaldique, accent tonique, allitération, rime et assonance interne, syntaxe éclatée et utilisation de kenning. Le poète ne montre pas seulement son savoir-faire, c'est aussi du grand art. Pourquoi ? Parce que dans la forme stricte de la strophe skaldique, le poète arrive à représenter l'expérience de l'instant vécu par Thorarin. En même temps que son épée ouvre le crâne de son ennemi, il craint l'épée de son adversaire, qui manque de peu de l'atteindre. Couvert lui-même du sang de l'autre, il observe avec effroi le sang qui coule par-dessus les oreilles de sa victime et remplit sa bouche. C'est un moment traumatique. Le trauma ne vient pas seulement de la grande peur qu'il a ressentie, mais aussi des conséquences de la grande violence dont il a été capable et qui n'est pas de sa nature, comme nous l'avons vu, et dont il observe les faits. Le poète a trouvé comment exploiter au mieux la forme qu'il maîtrisait, en particulier cette syntaxe éclatée, pour rendre aussi bien les effets du mécanisme de lutte et de fuite, de peur et d'agression du moment. De même, il nous transmet l'effroi figé dans le temps que le traumatisé n'arrête jamais de ressentir. Le diagramme que voici, tiré d'un livre récent sur le trauma, montre comment le cerveau réagit devant le danger. Il ordonne aux muscles et aux poumons de réagir, mais le lobe frontal, celui qui construit les souvenirs, a une activité réduite. Cela explique d'ailleurs la nature particulière de la mémoire traumatique, qui n'est pas narrative, mais figée dans le moment. La strophe de Thorarin est un exemple rare de comment la littérature peut simuler l'expérience humaine, plus une expérience limite comme celle-là. Or, il ne fait aucun doute que l'auteur de la saga connaissait les effets paralysants de la grande peur, car il décrit dans le même épisode la frayeur panique d'un des compagnons de Thorarin qui perd la tête et manque de peu de se jeter du haut d'une falaise à proximité. On peut ainsi penser que la culture qui a produit cette strophe, cette saga, ainsi que bien d'autres œuvres, est celle d'une société traumatisée par sa violence interne. C'est aussi une culture qui connaît la résilience face aux épreuves de la vie et reconnaît la valeur de la poésie ou du récit pour conforter cette résilience. Nous l'avons vu mardi dernier dans l'épisode de la saga d'Eyel, quand Eyel veut se laisser mourir. C'est le fait de composer un poème sur son chagrin qui lui sauvera la vie. Cette conscience des effets débilitants du traumatisme, et peut-être des effets réparateurs du langage, cette conscience n'est pas théorisée, mais s'exprime ou transparaît dans les créations littéraires. Je voudrais consacrer le temps qui me reste aujourd'hui à vous présenter mes observations sur ce qui est peut-être la plus grande des sagas des premiers Islandais, Brennu-Njáls-saga, ou la saga de Njál le Brûlé, comme elle est intitulée dans l'édition de la Pléiade. Encore plus longue que la saga d'Eyjafjall, elle a plusieurs centaines de personnages et une structure qui semble assez difficile à saisir au premier abord. Contrairement à la saga d'Eyjafjall ou la saga de Snorri le Goði, la saga de Njál ne raconte pas la vie de plusieurs générations. Malgré sa longueur, elle est assez circonscrite dans le temps, les événements se déroulant sur une période d'environ 30 ou 40 ans, à cheval sur l'an 1000, puisque la conversion au christianisme joue un rôle important dans cette saga. Elle ne se passe pas non plus dans une seule région, et elle n'est pas centrée autour d'un personnage ou d'une famille. Au lieu de cela, le centre du récit passe d'un personnage à un autre jusqu'à la fin. Il n'y a pourtant pas de grande rupture dans l'enchaînement des épisodes. Si on ne peut pas dire qu'il y a une seule intrigue, comme celle que j'ai décelée dans la saga d'Egil, le récit continue naturel, comme un long fleuve, peut-être pas si tranquille quand même. Le lecteur reste dans le même monde, parmi les mêmes personnages, dans une suite d'épisodes directement ou indirectement liés par une chaîne de vengeance et contre-vengeance. La violence y est provoquée par les passions incontrôlées des uns et des autres, désir, envie, colère, haine, démesure. Elle met en branle la noria des vengeances et contre-vengeances. De temps en temps, on parvient, par la négociation ou la compensation, à arrêter la violence. Mais quelque chose arrive toujours pour relancer la machine infernale. Peu à peu, cependant, la violence dans ce monde monte en intensité pour culminer dans l'attaque et l'incendie de Bergþórshvoll, où Njáll périt dans les flammes, ainsi que toute sa famille. D'aucuns ont comparé cela à l'épisode dont j'ai parlé tout à l'heure, où la femme et les trois fils de Gissur trouvèrent la mort. Il est probable que l'auteur de la saga, qui raconte des événements censément de la fin du Xe et début du XIe siècle, avait cet événement de 1253, donc 250 ans plus tard, à l'esprit lorsqu'il composa son récit. Cependant, les tueries ne s'arrêtent pas là. Un homme a réussi à s'échapper de justesse du manoir de Bergþórshvoll en flammes. C'est le gendre de Njáll, il s'appelle Kári, et il fera en sorte qu'une vengeance terrible s'abattra sur ceux qui ont causé la mort de sa belle famille et de son fils, encore enfant, qui est mort dans le brasier. Il est impossible de tout dire en quelques mots sur cette grande fresque qu'est la saga de Njáll le Brûlé. Je vais me concentrer surtout sur quelques scènes qui se passent après l'incendie. Beaucoup de personnages importants sont déjà morts. Gunnar, Njáll, sa femme, Bergþóra, leurs trois fils. Comme Gissur devant son manoir incendié, Kári est venu assister à la recherche des corps dans les ruines. On trouve celui de son fils de 11 ans qui a suffoqué dans la chaleur entre ses grands-parents, Njáll et Bergþóra, mais dont les corps ont été épargnés par une grande peau de bœuf dont ils furent recouverts. On trouve également la dépouille du beau-frère et ami de Kári, Skarphéðinn, fils aîné du vieux couple. Il est mort debout, les pieds consumés par les flammes, le signe de la croix brûlé sur son dos et sa poitrine. À côté de lui, planté dans un mur qui tient encore debout dans le manoir détruit, la hache, planté dans un mur qui tenait encore debout dans le manoir détruit, la hache avec laquelle il tuait ses ennemis. Comme souvent dans les sagas, cette arme porte un nom, Rimmugeur, la femme troll des batailles. Avant de se dire adieu dans les flammes, Skarphéðinn a dit à son beau-frère et ami Kári qu'il se réjouissait de savoir qu'il les vengerait tous. La hache, fichée dans le mur, en est le signe, mais aussi l'injonction. Après la levée des corps, Kári ne parvient pas à dormir. Il compose une strophe dans laquelle il dit l'impossibilité de trouver le sommeil tant que la vengeance ne sera pas accomplie. Kemrat utlur matla, almsima mér grímu, beðhlíðar manek beiði, bauga svefna og augu, síð brandviðir brendu, böðvar nösts á hösti, ek er að mínu meini minnugur nýjar inni. Guerrier, le sommeil ne me laisse pas fermer les yeux de toute la nuit. Je me souviens de l'homme qui jouait du bouclier. Dans l'automne, les incendiaires brûlèrent Njáll dans son logis. Depuis lors, je ne puis oublier le mal qui m'a été fait. En même temps, à 200 km de là, un homme dort. La saga suggère la simultanéité des faits par la contiguïté des chapitres. Il s'agit de Flosi, le chef des incendiaires. C'est un homme honorable, mais il a été contraint, par les circonstances, d'ordonner qu'on mette le feu à Bergþórshvoll. Pendant son sommeil, il fait un rêve remarquable. Il s'imagine qu'un géant sort d'une falaise qu'on peut voir de chez lui, et voici une photo de cette falaise. Donc il s'imagine que ce géant sort de cette falaise qu'on peut voir de chez lui, quand on regarde vers l'ouest, qui est justement la direction où se trouve Kári, qui n'arrive pas à dormir, mais bien beaucoup plus loin. De sa voix de géant, l'apparition appelle un à un 15 noms, la plupart ceux des compagnons de Flossé. Celui-ci raconte son rêve à un ami, mais pas tous. Celui-ci raconte son rêve à un ami qui lui dit que les hommes appelés vont sans doute mourir, bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi certains noms figurent sur la liste, car ils ne sont pas ceux de personnes qui sont la cible naturelle des pensées vengeresses de Kaoré. L'ami dit à Flossé de ne raconter son rêve à personne, d'autant plus que Flossé lui-même n'a pas été nommé par le géant du rêve, alors qu'il devrait être le premier de ceux que Kaoré voudrait tuer. L'affaire de l'incendie de Bertolskot l'est portée devant le Parlement. Après moult péripéties légales et de nombreuses morts, tous les hommes de bonne volonté mettent ensemble leurs ressources pour essayer de briser la chaîne des vengeances et contre-vengeances. Un accord est trouvé. Les familles de Niatl et les autres Odunial et les autres ayant droit reçoivent compensation. Mais Kaoré refuse pour sa part. S'ensuit une série d'épisodes dignes d'un western. Et il faut dire d'ailleurs que les scénaristes des westerns pillaient les sagas pour se donner des idées. Mais c'est une autre histoire. Alors, s'ensuit une série d'épisodes dignes d'un western où Kaoré pourchasse les survivants du parti incendiaire et les tue dans l'ordre où ils ont été appelés par le géant de la falaise. Il va jusque dans les îles britanniques où il surprend le dernier, Qualler, en train de compter des pièces d'argent qu'il a obtenues en commerçant avec un marchand du pays de Galles. Kaoré lui tranche la tête qui vole dans les airs en prononçant le nombre 10. L'auteur avait de l'humour là. Mais Kaoré part ensuite à Rome et pour obtenir absolution de ses péchés, car l'Islande est devenue chrétienne au milieu de la saga. Flossé, le chef des incendiaires, l'a précédé dans la ville éternelle. Lui aussi est absous et bientôt il sera de retour chez lui dans son manoir du sud-est de l'Islande. C'est alors que Kaoré et ses hommes, de retour en Islande, font naufrage sur la côte tout près. La neige commence à tomber et ils sont obligés de chercher refuge chez Flossé. Quand celui-ci ouvre la porte et voit Kaoré, les deux hommes se tombent dans les bras. Ils sont réconciliés et la saga est presque finie. Pas tout à fait, car elle se termine sur l'image de Flossé déjà vieilli. Il a fait son dernier voyage en Norvège pour y acheter du bois, pour reconstruire sa résidence. Il va retourner en Islande, mais l'automne est déjà bien avancé, avec les tempêtes hivernales qui ne sont pas loin. De plus, il n'a pas songé à faire réparer son navire endommagé pendant la traversée vers la Norvège. Quand on lui dit que c'est imprudent de partir sur l'océan sur ce navire patraque, il répond « Il est assez bon ». Il est assez bon pour un vieillard qui va bientôt mourir. Eirid Gott, comme le mot Feigum. Il met à la voile et on n'entend plus parler de lui. Son navire a disparu dans les gouffres amers de l'Atlantique Nord. Cette dernière scène m'a donné l'intuition de ce que je crois être la structure profonde de la saga. Flossé choisit la mort. C'est aussi le cas d'un grand nombre de personnages de la saga de Njál le Brûlé, en particulier de ses personnages principaux, le couple d'amis, Gunnar et Njál, qui meurent à différents moments dans la saga, ont tous choisi de mourir d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, et c'est le cas de nombreux autres personnages, par ailleurs, Flossé utilise l'adjectif « feigur », qui n'a pas d'équivalent en français, mais que je traduis comme « qui va bientôt mourir ». Ce n'est pas une bonne traduction, car le mot contient l'idée d'une mort programmée à l'avance, comme celle des incendiaires pourchassés par Kaoré et qui sont énumérés par le géant dans le rêve de Flossé. Ce rêve prémonitoire, qui se réalise peu à peu, au fur et à mesure que le récit avance, ce rêve a une inquiétante étrangeté, une Unheimlichkeit, pour citer Freud. Le lien que le récit du rêve établit entre l'insomnie vengeresse de Kaoré et le sommeil troublé de Flossé à 200 km de là nous fait nous demander si la saga n'est pas plus complexe et retorse qu'on a compris jusqu'à nos jours. Je pense à Jacques Derrida et sa lecture de l'Ulysse de James Joyce, comparant ce roman à un échangeur téléphonique créant un réseau de significations souterraines et surtout allant dans toutes les directions à la fois. Selon moi, la saga de Niall le Brûlé développe aussi un réseau de ce type. Ce réseau est mû par une force étrange et inquiétante, une force qui fait que dans le récit se répètent constamment les mêmes mécanismes mortifères. Cet engrenage dans lequel la société islandaise était prise au XIIIe siècle, la saga de Njal est pareille à nul autre, à cause de cette dialectique constante entre les passions et les efforts pour les contenir, entre les pulsions de mort et les pulsions de vie. C'est là, je crois, la singularité de cette saga. Comme la strophe de Thorarin, que j'ai commentée tout à l'heure, et que le poète a construite de telle sorte qu'on peut dire qu'elle est habitée par l'expérience du trauma en devenir, la singularité de la, ou plutôt dans son instantanéité, donc comme cette strophe qui est singulière, la singularité de la saga de Njal le Brûlé est d'être habitée par quelque chose de lié, mais qui est quand même différent. On ne connaît pas l'auteur de la saga de Njal le Brûlé, mais on sait qu'il écrivait une ou deux décennies après que la période de la plus grande violence eut pris fin, vers 1280 par là. Inconsciemment, il aurait ainsi transformé en œuvre d'art son expérience d'une société de la déliaison des instincts de vie et de mort, une société qui a perdu le contrôle des démons qui la hantaient et qui habite encore cette belle construction qu'il nous a laissée, Brennenjal saga, ou la saga de Njal le Brûlé. Malgré tout ce qu'elles ont en commun, surtout le fait qu'elles sont créées par des Islandais du XIIIe siècle, aux prises avec la violence, c'est qui se racontent eux-mêmes en parlant des générations qui ont fondé leur société, chacune des grandes sagas des premiers Islandais est singulière de cette manière, que ce soit la saga d'Egil, la saga de Snorri le Goði, la saga de Njal le Brûlé ou d'autres dont je n'ai pas pu parler ici. C'est de cette singularité que je vais parler dans mon quatrième et dernier cours mardi prochain. Merci.